J'ai noté ceci, j'ai dit, enfin, la pensée que Dieu me donnait, pas de relâchement dans l'amour. Nous ne devons pas nous relâcher dans l'amour. Vous savez que c'est la même façon que quelqu'un, un travailleur, vous ne le verrez jamais travailler avec un pantalon qui descend, qui n'est pas attaché par une ceinture. C'est gênant. Parce que pendant qu'il travaille, il est obligé de tenir ou toujours en train de bouger pour éviter que son pantalon tombe. Ou même à l'époque de Jésus, c'était une sorte de tunique. Et quand il fallait se mettre au travail, ils attachaient pour bien se mettre, être à l'aise pour travailler. Et la pensée me venait qu'il ne fallait pas qu'on se relâche dans l'amour. Parce que si nous nous relâchons dans l'amour, nous basculons, c'est la chair qui prend le dessus. Et comme, c'est-à-dire c'est la chair qui prend le dessus, c'est-à-dire on va annuler tout ce que Christ a fait à travers, tout ce que Dieu a fait à travers Jésus dans nos vies. Si nous nous relâchons, ce que Dieu a fait en Christ dans nos vies à travers Jésus restera sans effet. Alors nous sommes obligés de maintenir l'amour et nous-mêmes de ne jamais nous relâcher. Nous pouvons être fatigués, mais nous devons toujours veiller à mettre l'amour en avant. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Alors, pour aller plus loin dans ce texte, pas de relâchement dans l'amour, nous devons tout faire pour préserver cet amour. Tout. Sachant que Dieu, nous n'avons pas à aller chercher quelque part cet amour. Dieu l'a déjà déversé. La Bible nous dit que Dieu a déversé. Allez. Notre cœur était comme ce verre, vide. Et Dieu est venu, il a fait ça. C'est du concret, hein, mes amis. Hein. Alors vous vous direz, mais qu'est-ce qui va boire l'eau après ? Vous allez voir. Voilà. Il a déversé un cœur vide. On se haïssait autrefois. On était ennemis de Dieu. On était incapable d'offrir à Dieu quelque chose de valable. Pourquoi ? Parce que l'amour n'y était pas dans notre cœur. Mais quand Dieu nous a pris, nous a saisis et nous a emmenés à Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert, exactement comme le voile du temple qui s'est déchiré de haut en bas. Et en Christ, Dieu a déversé, comme je viens de le faire, dans notre cœur, son amour. Celle et celui qui me dit, mais j'ai pas d'amour, tu es en train de faire Dieu menteur. Dieu a fait le travail, il a fait le maximum du travail. Incapable de nous aimer les uns les autres, nous haïssant les uns les autres, on s'enviait, on se calomniait, on se jalousait. Enfin, c'est du français, hein. Mais lui, en déversant son amour dans notre cœur, il nous dit aujourd'hui, Christophe, tu ne peux pas me dire que tu n'aimes pas ton frère, ta sœur. Ah non, Seigneur, j'arrive pas. Ah, tu sais, hein, j'ai beaucoup de mal. Tu sais pas ce qu'elle m'a fait. Tu sais pas ce qu'il m'a fait. Et il y a la petite voix qui te dit, aime-le et aime-la. Et certains chrétiens sont en conflit avec eux-mêmes. Ils disent avec Dieu, mais c'est avec eux-mêmes. Il y a une lutte à l'intérieur. Des prises, des fois ils ont le dessus parce qu'ils disent non, je ne veux pas. Et après, l'autre côté, ça, le vieil homme, la nouvelle nature, il y a un combat. Jusqu'à ce que Dieu, dans sa bonté, il dit, je vais aller mettre un peu d'ordre là-dedans. Le Saint-Esprit vient sur nous. Le Saint-Esprit saisit le vieil homme, il le ligote et lui rappelle ce que Jésus a fait de lui. il a été cloué à la croix du calvaire. Les choses anciennes sont quoi ? Sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. En qui ? En Jésus-Christ. Il n'y a qu'en lui qu'aujourd'hui nous pouvons nous aimer véritablement les uns les autres. Nous sortons de Christ, nous nous haïssons. Nous ne nous supportons plus. On va se regarder comme ça. Et c'est pour cela qu'il est important que chacun d'entre nous, nous demeurons en Christ. Tant que nous demeurons en lui, on va s'aimer les uns les autres. Parce que nous sommes ici-bas dans l'antichambre du ciel. Parce que là-haut, comme je vous le disais tout à l'heure, la charité, l'amour, c'est ce qu'il va rester. Tout va disparaître. Mais l'amour va demeurer. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour. Il n'y a pas de place pour la haine là-haut dans le ciel. D'ailleurs, aucune personne qui n'a pas d'amour dans son cœur ne peut rentrer dans le ciel. C'est impossible. C'est un lieu où l'amour règne, où il y a une atmosphère d'amour. Tout ce que vous voyez, c'est l'amour de Dieu qui y reflète à travers tout ce que vous allez voir dans le ciel. Tous ceux que vous verrez devant le trône, en train d'adorer Dieu, en train d'adorer l'agneau, ce sont ceux et celles qui ont fait l'objet de l'amour et de la grâce de Dieu. Est-ce que nous le voulons nous aussi ? Parce que nous ne savons pas quand nous allons quitter la terre, mais nous devons nous préparer à vivre dans cet amour, déjà ici-bas, mais aussi dans le ciel. Alors Dieu a déversé son amour dans notre cœur. Aujourd'hui, nous avons ce pouvoir de nous aimer les uns les autres. En plus du Saint-Esprit qui est là, qui est un allié sûr, fidèle, qu'il va, il travaille, il fait écran pour que quand le vieil homme vient pour nous empêcher de nous aimer, le Saint-Esprit vient se mettre entre le vieil homme et nous, l'homme nouveau, la nouvelle créature, pour que la nouvelle créature s'épanouisse dans l'amour. Amen. Un chrétien qui ne s'épanouit pas, c'est un chrétien qui n'aime pas. Un chrétien qui vit dans l'amour, c'est un chrétien qui s'épanouit. Il rayonne, elle rayonne, ça se sent. L'amour de Dieu à travers elle, à travers lui, s'émane, ça se voit. Les gens disent, mais monsieur, madame, il y a quelque chose qui dégage de vous. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas votre cheveu, ce n'est pas votre maquillage, ce n'est pas votre façon de vous habiller. C'est ce qui émane de l'Esprit de Dieu. Et plus qu'aujourd'hui, le monde a besoin de sentir cela. Le monde a besoin de sentir l'amour de Dieu. Cet amour, dit l'apôtre, l'apôtre Paul dit ceci, si nous ne veillons pas à maintenir cet amour, le relâchement va nous saisir et nous allons être ici, mais en ayant dans le cœur des choses qui ne vont pas. Que Dieu nous garde pour cela. Que Dieu nous garde notre cœur à ne jamais avoir quelque chose les uns contre les autres. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on se relâche, c'est une ceinture qu'on met à la taille, on serre la ceinture pour qu'on sente que c'est bien attaché. Et une fois qu'on sent qu'on est bien attaché, il n'y a pas de relâchement. Si la ceinture se relâche, tout va tomber. Mais si elle est bien serrée, on pourra travailler. Le relâchement ne pourra pas nous saisir. Vous me suivez jusque-là ? Alors voilà ce que dit l'apôtre. J'ai noté ceci. On va le voir, puisque c'est dans la parole de Dieu. Hein. Dans 1 Pierre... C'est peut-être certainement un texte que vous avez lu il n'y a pas longtemps et que vous l'avez lu récemment ou il y a quelques mois. Mais on va le prendre à partir 1 Pierre chapitre 4. Et et au verset 8. Vous l'avez trouvé ? D'accord. Vous savez, toujours par rapport à l'amour, un chrétien qui n'a plus d'amour dans son cœur, ou du moins l'amour de Dieu est toujours là dans son cœur, hein, mais l'amour de Dieu dans son cœur est comme bloqué. Il y a comme, c'est comme un tuyau avec du calcaire, avec plein de choses qui est là et qui empêche que l'eau coule normalement. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, avant de venir ici. J'étais en train de me... Voilà. Et puis je voyais que l'eau qui coulait, ça ne passait pas. Je voyais ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis tourné, il y avait un... Merci, j'ai entendu ventouse. Merci. Alors j'ai pris, j'ai bouché le petit machin et j'ai fait ouh. Et puis facilement l'eau a coulé. Quel soulagement ! Parce que si on fait couler l'eau et ça ne coule pas, ça va déborder. Et c'est pareil pour le cœur de l'homme, notre cœur. Si il y a des choses qui sont charnelles, qui sont humaines, de la vieille nature, que nous laissons boucher le tuyau, le cœur, l'amour de Dieu se communique, doit couler pour communiquer. S'il y a quelque chose ou il y a des choses qui viennent boucher cela, l'amour, on ne peut pas la manifester. L'amour sera là, dans le cœur, mais impossible de se manifester. Parce que la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses biens. Dieu ne revient pas sur ce qu'il nous a donné. Il a déversé son amour dans notre cœur. C'est quelque chose, c'est un acquis. On l'a, cet amour. Mais si cet amour ne se manifeste pas, et vous en connaissez les raisons peut-être, alors là, il faut tout de suite que nous allons trouver Dieu. C'est lui, c'est de lui que nous est venu cet amour. On lui dit, Père, je te demande pardon. Parce que l'amour que tu as déversé dans mon cœur, ce n'est pas un amour qui est humain, qui vient de moi, mais c'est un amour divin. Et cet amour, j'ai du mal, je ne le vois pas se manifester. C'est un amour qui est là, qui est stérile. Libère mon cœur. Et puis, c'est vrai, on va lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour ça, qui est venu boucher. Eh bien, vous verrez, c'est exactement ce que l'expérience que j'ai faite tout à l'heure. À nouveau, l'eau, l'amour va se manifester. Vous êtes d'accord avec ça ? Exemple concret. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, regardez bien, avant tout, dit l'Écriture, ayez les uns pour les autres, et c'est ce mot-là qui est intéressant, une, comment on peut traduire le mot ardent ? On peut dire un vif désir, c'est bon ça aussi ? Qu'est-ce qu'on peut dire encore comme... Un grand amour ensuite. Vous avez été à l'école plus que moi, arrêtez. Un amour débordant. Un vif amour. Quelque chose de brûlant. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Pour quelle raison ? Il emploie bien le mot ardent, comme un feu ardent, un feu qui brûle. Ça laisse entendre que l'amour de Dieu à travers nous, c'est une puissance qui consume beaucoup de choses. Amen. On n'a pas encore compris, quelque part, la puissance qu'il y a dans l'amour. Peut-être nous l'avons la connaissance, mais nous ne le vivons pas. Mais la parole de Dieu nous dit, avant tout ce que nous pouvons penser ou faire ou dire, il dit, ayez les uns pour les autres, avant même de vouloir instruire ton frère, ta sœur, il te dit, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Pourquoi, si tu viens me dire quelque chose qui est vrai, si tu me le dis sans amour, ça me fera du mal. Mais si tu me le dis avec amour, ça passera comme une lettre à la poste. Est-ce que vous me suivez? Et justement, c'est ardent, l'amour brûlant, c'est ça. L'amour, c'est comme une flamme qui consume tout sur son passage. Tous les miracles que Jésus a fait, il l'a fait par amour. Ressusciter Lazare, c'est par amour. Faire revenir en vie le fils de la veuve de Naïm, c'est par amour. Rendre à Bartimée ses fonctions naturelles, c'est par amour. Tout ce qu'il a fait, c'est par amour qu'il l'a fait. Alors, est-ce que vous avez vu dans les miracles que Jésus a fait quelque chose de faible, quelque chose qui n'avait pas de puissance? Mais tout ce qu'il a fait, la puissance de Dieu était là. Et il l'a fait par amour. Alors c'est pour cela que vous ne verrez jamais un miracle se faire sans amour. Le miracle qui vient de Dieu s'accomplit toujours avec l'amour de Dieu. Ça, je l'ai noté. Et je vous conseille de le noter aussi, sans vous commander, bien sûr. Je suis pas... Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Pour quelle raison? Il nous donne l'explication, juste après. Pourquoi? Parce que la charité, qu'est-ce qu'elle fait? L'amour. Elle découvre, elle met à nu les carences et les défauts des uns et des autres. Est-ce que l'amour déshabille? Dites-moi, est-ce que l'amour déshabille? Quand on aime son enfant, on ne veut pas que son enfant sorte dehors avec un pantalon qui arrive jusqu'ici comme s'il allait traverser la rivière. Ou avec des chaussures trouées. Ou qu'il sent mauvais. Ou qu'il a les dents sales. Par amour, on va tout faire parce que l'enfant nous représente. L'enfant représente, c'est une forme de... Il représente papa et maman. Eh bien, on va faire en sorte que l'enfant sorte bien habillé. Et quand les gens s'arrêteront, ils diront, mais que cet enfant est bien habillé, tu es l'enfant de qui? D'un tel. Ah, tout de suite, l'image du père et de la mère rayonne d'un coup. À cause de quoi? D'un petit enfant que tu as bien habillé, que tu n'as pas négligé. Eh bien, écoutez, la Bible dit que l'amour, pourquoi il faut s'aimer ardemment? Parce que tu ne verras jamais, même si on vient te dire, tiens, tu sais, elle, il y a ça, lui, il y a ça, tu ne verras pas cela. Tu ne verras pas le défaut ni la chose qui ne va pas chez ton frère et chez ta sœur. Tu ne le verras pas. Pour quelle raison? Parce que l'amour de Dieu dans ton cœur a déjà consumé toute forme de suspicion. Tu dis pas amen à ça? Je me gratte la tête. Parce que je suis, moi-même je suis en train de me régaler, hein, parce que c'est autant pour moi que pour vous. D'accord? Voilà. Et il dit, l'amour, la charité, va couvrir une, non pas une petite partie, mais beaucoup de choses. L'amour va recouvrir une multitude de... péché. Alors j'ai un exemple qui me vient. J'ai l'exemple de monsieur Noé. Qui connaît Noé? N'ayez pas peur, moi je le connais. Alors je ne vais pas vous dire où c'est que vous l'avez rencontré. Dans la parole de Dieu, nous l'avons rencontré. Dans la Genèse, Noé a traversé le déluge dans l'arche que Dieu lui avait donné de construire, avec les dimensions venant de Dieu. Une fois que Dieu a ramené le calme, l'eau est descendue, il a ouvert, il a vu, enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses que vous connaissez, qu'on connaît. Ensuite, Noé a mis ses pieds sur la terre ferme. Et il est sorti avec dans l'arche, avec les animaux, etc. Mais il avait pensé à prendre un plant de vigne. Il n'a pas dit « je vais prendre des pommes ». Je vais essayer de transporter, parce que le déluge a tout détruit. Hein. Et je vais penser à prendre... Il a pris un plant de vigne. D'où le rapport que je fais que dans certaines assemblées, il sert le jus de raisin. Non, c'est le vin. Et Monsieur Noé, comment on les appelle les hommes, les personnes qui font du vin ? Les vignerons. Monsieur Noé est devenu vigneron. Il a planté sa vigne, je ne sais pas après combien d'années, la vigne a donné, et lui, il a dit, tiens, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, ces messieurs font du vin, ce n'est pas eux qui ont inventé les choses. Noé a été celui, à ma connaissance, si vous avez autre chose, vous me le dites, le premier qui a fait du vin, et en plus, non seulement il n'a pas invité les gens à venir goûter, recracher, lui il a bu, il a avalé. Parce que pour lui, avaler le vin, pas de gâchis. Aujourd'hui, le bon vin, ils vous font goûter, vous recrachez. Non, vous avalez. Et Noé a bu son vin. Et quand il a bu son vin, il a goûté un verre. Il a goûté deux verres. Il a dit, c'est très bon. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Je préfère ne pas le dire parce que vous allez dire, le pasteur a dit, ou le frère a dit. Je préfère que ce soit vous qui le dites. Il a goûté un verre. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, il n'y a plus personne. Non, mais ce n'est pas un verre de vin qui a rendu Noé comme il était. Il en a abusé. Et il a bu son vin. Et quand il a bu, il a vraiment bu, et il n'arrivait plus à mettre la main sur sa bouteille, parce qu'il était complètement ivre, il s'est endormi. Mais il s'est endormi à moitié nu. Et Noé avait trois fils. Alors on va citer leurs noms. Et Japhet. Il y en a eu un qui a vu son père nu. C'est lequel ? C'est Sécam. Et quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce jour-là, il a mis de côté l'amour. Il a mis de côté le respect. Et il a préféré jouer du tam-tam avec sa bouche et à dire à tous que son père avait bu et qu'il était... Il a déshabillé son père qui était déjà nu. Et c'est ce que certains font. Non seulement ils ne réalisent pas que ceux et celles qui sont là devant eux sont déjà nus, à cause de leur manquement, peut-être de leur péché, de leur défaut, eh bien ils vont encore colporter en disant « Ah, tu sais, hein, il le déshabille encore plus. » Il est déjà nu, c'est pas la peine de le déshabiller encore. Eh bien c'est ce qu'a fait M. Cam. Il est parti, il a raconté ça. Et les deux autres fils de Noé, Japhet et Sem, que font-ils ? Ils ont entendu que le nom... La famille de Noé, la dignité, le nom est en train de partir en frite, enfin, en bibrine, comme on dit. Ils ont dit non, il faut qu'on relève, il faut qu'on restaure, il faut qu'on répare. C'est pour ça qu'ils se sont attachés les ceintures et ils ont dit maintenant, on va pas se relâcher dans l'amour, si notre frère s'est relâché... Nous, on ne va pas se relâcher. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre n'est pas là pour l'écraser, mais c'est pour le relever. Amen. Et c'est ce qu'a fait Cham, Japhet et Sem. Qu'ont-ils fait ? Quand ils ont appris la nouvelle, ils ont été chercher des couvertures, des draps, suffisamment grand, les deux, ils avaient des draps. Et sachant où était le papa, Noé, qui était ivre là en train de dormir, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas suivi le courant de blablabla de leur frère. Ils ont dit non, nous allons aller à contre-courant. Lui a un courant qui descend, à critiquer, à calomnier, etc. Nous, on va prendre le courant à contresens. C'est pour ça que la Bible dit de nous aimer d'un amour ardent. Et quand les deux enfants de Noé, sachant où était le papa, comment ils ont fait? Parce que eux aussi, ils ne savaient pas. C'est à travers du frère qu'ils ont su que le papa était complètement dans cet état. Ils n'ont pas dit « Ah, oui, alors, il est où ?» À regarder la nudité du père, curieux, mal placé, une curiosité malsaine. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont eu un grand respect. Et dans l'amour ardent, il y a du respect pour l'autre. Ils sont venus à reculant. Je me suis toujours posé la question, il fallait qu'ils jaugent bien. Parce que la Bible ne nous parle pas qu'ils se sont trompés. Ils ont bien jugé où était le papa. Et ils tenaient bien les draps dans la main. Et une fois qu'ils sont arrivés sous la tente où était le papa, ils ont reculé. Et je peux vous dire, ils avaient la crainte de regarder le père. Vous savez, quand on aime, on respecte. Quand on aime, on ne cherche pas à essayer de... Vous savez, comme ça. On ne fait pas ça. Eh bien, quand ils sont arrivés à côté du papa, ils ont pris la couverture, les deux, et ils ont recouvert sans regarder. Vous avez vu tout ce que cela demande dans l'amour? Les efforts que cela demande? Parce que pour que Christ puisse nous aimer, il a fallu qu'il laisse le trône de gloire. Il a fallu qu'il laisse la gloire qu'il avait dans le ciel avant de venir. Il a fallu qu'il s'humilie, qu'il s'abaisse. Et non seulement qu'il s'abaisse, ça n'a pas été fait de manière en disant « Oui, c'est Jésus, il ne souffre pas ». Il a bien crié à la croix du calvaire. Il a bien souffert. Ça lui a coûté de quitter la maison du Père. Ça a coûté à Dieu de voir son Fils quitter le ciel pour aller venir sauver, non pas des gens parfaits, mais des pécheurs comme nous. Ça lui a coûté. Et ça a coûté au fils de Noé de pouvoir ne pas regarder. Ils ont mis de côté la curiosité mal placée. Ils ont refusé de céder à la calomnie. Ils ont refusé de céder à la médisance. Ils ont refusé de manger ce pain. Pourquoi? Pour couvrir le papa. Et je peux vous dire, en couvrant le père, ils se couvraient eux-mêmes. Quand tu couvres ton frère ou ta sœur, tu es en train de couvrir. Parce que dans le corps de Christ, tu n'es pas un membre isolé. Je n'ai jamais vu un doigt de pied qui court tout seul en disant « je vais faire des courses ». Mais j'ai toujours vu le pied et le corps qui suit avec. Oui ou non? Amen. Eh bien, si tu penses être seul dans le corps et dis « non, ça ne me regarde pas », eh bien, c'est que tu es déjà bien loin. Mais nous formons un seul corps. Nous sommes plusieurs membres, mais nous formons un seul corps. Mon bras est collé à mon corps. Ma tête est collée à mon corps. Tout cela forme un seul et même corps. Et en couvrant ton frère, ta sœur, parce qu'il dit bien l'amour, recouvre une multitude de fautes, de péchés. En couvrant ton frère, tu te couvres toi-même. En couvrant papa Noé, les enfants se couvraient eux-mêmes. Mais mon ami, quand le papa Noé s'est levé et c'est venu à ses oreilles, l'attitude de un de ses fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a maudit. Il y a une malédiction qui est venue sur ce garçon. Et je le dis avec un grand sérieux. Dieu, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis. Éphésiens, chapitre 1er. Je veux bien amener la pensée que j'amène, mais avec la parole de Dieu, parce que je ne veux pas que penser que c'est moi. Non, c'est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, toujours dans la pensée que Noé a maudit un de ses fils, celui qui l'a vu et qui a été le colporté. Et regardez ce que fait ce que Dieu a fait de nous. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il nous a fait asseoir, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a fait asseoir en Christ. Nous le sommes, ne sortons pas de cette position. Si nous sortons, nous devenons comme l'un des fils de Noé qui a vu la nudité et qui met à nu la vie des uns et des autres. Non. Que s'est-il passé? Dieu nous a pris et nous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes en Christ, d'accord? Regardez pourquoi je vous dis ça. Noé a maudit son fils. Mais Dieu a emmené autre chose sur notre vie. Il a emmené la bénédiction. Amen. Dieu nous a bénis. C'est pas qu'il va nous bénir, il nous a bénis. Je suis béni. Vous êtes béni. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Parce que Jésus nous a habillés de sa justice. Nous étions nus comme le Père Noé. Mais Dieu est venu par Jésus, il a mis la couverture de sa grâce sur nos vies. Alors qui a le droit de venir tirer cette couverture et montrer notre nudité? Personne n'a le droit de le faire. Dieu peut le faire, mais il ne le fait pas. Alors pourquoi je le ferai? Pourquoi on le ferait? Je confirme ce que je dis par la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, qui? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a, vous voyez, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Voilà notre position. Nous ne sommes plus exposés au jugement, du moins, aux calomnies, au jugement futur, mais Dieu a mis une couverture sur nous, et cette couverture, Christ a payé un prix cher pour pouvoir nous revêtir de sa justice. Nous avons été habillés de la justice de Jésus. Et cette robe de justice que nous portons, quelquefois nous la salissons, mais nous allons trouver Jésus et nous allons laver notre robe dans le sang de l'agneau, afin de nous présenter devant Dieu en étant habillés de la justice de Jésus. Seigneur, nous ne venons pas avec notre propre justice. Nous ne venons pas avec nos qualités, nos mérites. Nous venons avec la grâce et la justice de Jésus. Nous nous approchons de toi. Et c'est ce que nous faisons ce soir, c'est nous sommes venus, non pas en disant « je suis meilleur qu'un autre ». Non, non, on vient avec la grâce de Dieu devant toi. Nous venons quoi? Nous venons nous prosterner. C'est la première des choses. Parce que, vous savez, quand Ésaïe, chapitre 6, le prophète, Dieu lui a fait voir ce qui se passait dans le ciel, quelque temps après, il a vu, mais il a dit « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Mais Dieu lui a fait voir sa gloire. Et les séraphins qui étaient là auprès de Dieu criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel !» Il a vu la gloire de Dieu. Une gloire qui l'a emmené à se prosterner, à se regarder petit à ses yeux, mais aussi à donner toute la gloire à Dieu. Et notre frère Job, avec tout ce qu'il a vécu, il pouvait dire ceci, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. » À travers l'épreuve, il a pu contempler la gloire de Dieu, voir la main de Dieu dans tout ce qu'il vivait. Dieu contrôlait sa vie et tout ce qui lui arrivait. Et voilà, il dit ceci, Dieu nous a bénis, le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes, en Christ. Et il dit ensuite un peu plus bas, il dit au verset 4, en lui, en Jésus-Christ, bien sûr, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Tout cela, c'est en Christ. Nous le sommes, nous sommes saints en Christ. Nous sommes irrépréhensibles en Christ. En dehors de Jésus, nous sommes exposés à tout ce que la chair et l'humain peut nous emmener à être devant Dieu. Alors je poursuis ma pensée. Nous revenons dans 1 Pierre chapitre 4. Non, 1 Pierre chapitre 3, pardon, maintenant. Et à partir du verset 8, il dit ceci: enfin, soyez tous, non pas une partie, mais tous animés de quoi ? C'est pas évident, hein ? Pour former un seul corps, ça nous demande à ce qu'avant de venir ici, chacun d'entre nous, on se tient devant Dieu. Je ne vais pas dire qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, mais c'est pour nous apprendre que la prochaine fois, quand nous venons, nous devons nous préparer avant. Non seulement on va à la rencontre de Dieu, de Jésus, mais à la rencontre de mes frères et sœurs. C'est-à-dire, je viens pour former un seul corps, avec mes frères, comme on dit, d'un seul homme, un seul homme, seul cœur, même pensée, même sentiment, même désir. Si, en venant ici, nous avons cela, on parlera d'une même voix. Il n'y aura pas la confusion. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit qui divise. C'est un esprit qui unit. Et le fait qu'il unit les uns aux autres, c'est pour que d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même foi, on puisse adorer et glorifier notre Père ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas donné humainement, c'est impossible. Mais si nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle, ça ira parfaitement bien. Parce que tout ce qu'il fait est parfait. Il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Même pensée, même sentiment. Et il rajoute, pas un petit peu, comme tout à l'heure il disait, une ardente charité. Là il dit, plein d'amour fraternel. Il y a ce lien, mes bien-aimés frères et sœurs, que si nous laissons ce lien se relâcher, le lien de l'amour, ça va être la débandade. Mais si nous nous ressaisissons et nous veillons à nous aimer ardemment, si nous veillons, comme dit ce que nous venons de lire, si nous veillons à être remplis, pleins d'amour fraternel, et en plus, il rajoute de compassion, vous avez vu, et d'humilité, mes amis. On ne peut pas aller trop vite. Je préfère dire amen quand le temps viendra, mais c'est un morceau, la parole de Dieu, c'est comme un pain, c'est comme du froment qui nourrit. Et ça, on ne doit pas venir, je ne dois pas faire une prédication, on va dire comme ça. Non, on partage. Et après, on s'en va avec ce qu'on a pris. Et ça nous emmène, le Seigneur travaille notre esprit et notre cœur avec ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Et il dit ceci, même pensée, même sentiment, plein d'amour, parce qu'on ne peut pas avoir une même pensée, même sentiment, s'il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est le lien qui permet à ces choses-là, la compassion, l'humilité, toutes ces choses qui sont du fruit de l'esprit, bien sûr, de se manifester. S'il n'y a pas l'amour, ça ne se manifeste pas dans l'Église. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on ne se relâche pas dans l'amour. Si on se relâche, alors c'est la porte ouverte à toutes sortes de choses. On va basculer dans l'hypocrisie. On va basculer dans l'amertume. On va basculer dans toutes sortes de choses que la chair et que l'adversaire va envoyer. Mais nous devons tenir bon. Nous ne devons pas nous relâcher. D'accord ? Il dit, je poursuis, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et il nous dit autre chose, il nous dit, ne rendez point le mal pour le mal. Mais, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Et il nous donne la solution, il dit, ça ne vous rappelle pas ce que Jésus nous a dit ? Ne maudissez pas, mais bénissez. Avons-nous eu raison d'avoir donné notre vie à Jésus un jour ? Alors est-ce que nous voulons le laisser lui nous emmener à grandir dans ce domaine ? Alors bienvenue. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'amour, c'est la chose la plus difficile. C'est pour cela que l'apôtre dit, tout va disparaître, les dons, le parlant en langue, les prophéties, tout cela va disparaître. Mais ce qui va demeurer, c'est l'amour. Et c'est la chose la plus difficile pour un chrétien, c'est ça. Parce que toute sa vie, toute notre vie, nous sommes appelés à vivre dans l'amour. Il y aura des situations, des circonstances qui vont nous emmener à éveiller dans notre cœur le contraire. Mais tout de suite, nous devons laisser la porte ouverte à l'amour pour aimer. Ne pas maudire, de bénir, le contraire de bénir quelqu'un, c'est de maudire la personne. Noé a maudit son fils. Nous sommes appelés à bénir. C'est la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas la malédiction, on maudit les gens, il n'y a pas ça. Dans la nouvelle alliance que Dieu a établie entre lui et nous, il veut faire de nous des instruments d'amour. Le monde a besoin de l'amour de qui ? De Jésus, mais de nous, de Christ à travers nous. Le monde a soif d'amour. J'ai besoin d'amour. Ne me racontez pas d'histoire. Ce dont j'ai besoin, c'est de me sentir aimé. Et quand je me sens aimé, je peux sauter au plafond, faire deux pirouettes, revenir encore une pirouette et tomber comme ça sur mes deux jambes, comme un chat. Parce que je me sens porté par l'amour de Dieu. Et si vous vous sentez aimé, ça sera la même chose. Quelqu'un qui se sent aimé égale compris. Et se sentir aimé, c'est « je te comprends ». Même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je te comprends. Mais malgré tout, je t'aime. Ça, c'est une force. C'est quelque chose que, dans les églises, beaucoup n'ont pas compris, qu'il faut laisser libre cours à l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu quitte une assemblée, c'est fini. Et nous sommes les garants, nous sommes les responsables. Dieu l'a déversé, cet amour, dans notre cœur. Nous sommes responsables de cela. Nous devons veiller, nous ne devons pas nous relâcher, nous devons veiller à garder, à manifester cet amour. Pour que ceux qui rentreront ici, ils ne seront pas touchés parce qu'ils verront un miracle ou quelqu'un... Non, ils seront touchés parce qu'ils disent « j'ai senti l'amour, j'ai senti quelque chose que je n'ai pas senti à l'extérieur ». Et cette personne peut être accrochée à sa religion, mais quand il rentre ici, l'amour de Dieu c'est comme un feu ardent qui brûle les liens de la religion. Des traditions. Et la personne tombe sur sa face parce qu'il se sent aimé par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, voilà le contraire. Car c'est à cela que vous, que nous avons été appelés. Nous sommes, Dieu nous a appelés. Dieu nous a choisis. Il nous a bénis. Il ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des chauffeurs de chaises, ni des gens qui font des cours bibliques aux autres. Il nous a sauvés pour que nous puissions manifester l'amour et bénir. Que Dieu te bénisse. Si nous passions une journée à bénir les autres, je peux vous dire que le lendemain matin, Dieu a déjà pourvu au-delà de nos espérances. Si nous veillons à ça, c'est un travail, c'est un exercice, tous les jours. Seigneur, je veux aujourd'hui que ma vie soit en bénédiction. Je veux que de ma bouche, des paroles de bénédiction sortent. Je veux être un instrument qui manifeste ton amour, un instrument qui bénit. On est dans un monde d'incertitude. Le monde a besoin, les gens qu'on côtoie, qu'on voit, nos voisins, regardez-les bien. Et vous verrez que le Saint-Esprit vous fera monter de vos tripes, de vos entrailles. Seigneur, bénis cette personne. Et vous ne savez pas que derrière la bénédiction, il y a Dieu qui suit. Il y a quelque chose, la bénédiction rentre dans la maison de la personne, rentre dans les chambres, dans les cœurs des enfants, rentre dans le cœur du mari, rentre dans la famille, dans ceci, de cela, et ça propage. Nous, Dieu, nous sommes nous, les garants de l'amour de Dieu ici-bas. Je finis ma pensée, et après on va prendre la Sainte Cène. Il dit ceci, c'est à cela que vous avez été appelés. Afin, il y a une promesse derrière. Vous avez vu ? Il y a une promesse derrière cette attitude que nous devons avoir ce soir, dans la vie de tous les jours. Nous avons été appelés à cela, à bénir, à ne pas injurier, rendre le mal pour le mal, injure pour injure. Nous sommes appelés à bénir. Et il dit, afin d'hériter la bénédiction. Il y a une bénédiction, c'est que nous devons partir au ciel. Rentrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, qui n'aime pas la vie? On veut aimer la vie, on veut vivre le temps que Dieu nous laisse sur la terre, oui ou non? Il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui ne veut pas voir des jours heureux? Levez la main. Il n'y a aucune main qui se lève, vous êtes bien vivant, hein? Vous êtes comme moi. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, voilà le conseil que Dieu nous donne ce soir. Alors, on va le lire ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai rien entendu. C'est à cause du masque que j'entends pas. Non, mais je vous taquine. Il dit ceci, on le lit ensemble. Qu'il préserve sa langue de dire du mal. Et vous savez, en une journée, combien la langue peut nous faire défaut. C'est bien le psalmiste qui disait, Seigneur, mets un gardien à ma bouche. Et il dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles. Inclinons notre tête et nous prions un instant.